Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec nous, une soirée énervée en deux temps et à deux vitesses. 18h, oui, en avant-première et en podcast. 22h minuit, à l'antenne, comme tout le monde. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ça vous fait rire hein, quand
oui,
je dis extraordinaire, parce que ça vous rappelle quelqu'un.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et l'actu ce soir, combattantes, unissez-vous. Gros plan sur les combattantes kurdes et yézidis contre Daesh à l'occasion de la sortie demain du film Sœurs d'armes de Caroline Fourest et contre-plongée aussi sur ces Français qui partent combattre auprès des minorités d'Orient toujours oubliées et qui jouent pourtant un rôle crucial dans le combat contre les terroristes et les fondamentalistes religieux. Au moment où Donald Trump annonce hier le retrait des troupes américaines au nord de la Syrie, ce qui laisserait le champ libre à Erdogan avant de se rétracter dans la nuit. Eh bien, on va parler de tout ça ce soir avec nos invités, Benoît Lagan.
Eh bien, Caroline Fourest, donc journaliste, essayiste et réalisatrice désormais du film donc Sœurs d'armes en salle à partir de demain. À ses côtés, Patrice Franceschi, aventurier, écrivain, officier de réserve et consultant militaire pour le film Sœurs d'armes, une nouvelle corde à son arc, et auteur aussi de son dernier livre La vie que j'ai voulu, un récit autobiographique paru au Seuil. Tigrane Yegavian, journaliste spécialiste des questions géopolitiques, auteur de Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire qui apparaîtra le 23 octobre prochain aux éditions du Rocher, et André Hébert, auteur de Jusqu'à Raqqa avec les Kurdes contre Daesh et qui s'y est engagé justement en tant que combattant.
23 octobre, c'est un jour particulier que j'aime beaucoup moi personnellement.
Oui. C'est mon anniversaire,
oui, c'est ça. Cadeau. En live ce soir, Marion Guilbeault.
C'est l'automne, on a froid, on va se réchauffer avec le folk et les guitares en bois de Beau Tibol.
Et puis autre temps, autre parole, ce sera le Énervé la suite, France Inter plus de Léonard de Vinci ce soir à l'occasion du 5e centenaire de la mort de l'artiste. Ce soir, on vous dit tout, enfin presque, hein, sur la Joconde. Le Énervé, c'est parti.
France Inter, nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Deux Françaises rejoignent les combattantes kurdes au sein d'une brigade internationale. Zara, jeune yézidi rescapée d'une rafle, tente de fuir son sort d'esclave capturé par Daesh. Elles vont se retrouver toutes les trois sœurs d'armes dans un bataillon de femmes afin de mener la guerre contre Daesh. C'est rapide parce que c'est juste un résumé. Bande-annonce du film de Caroline Fourest.
À cette époque, je ne savais pas ce qu'ils pouvaient nous faire. Ni à quel point cette guerre allez me changer.
Et elle, c'est qui ?
Nos forces spéciales.
C'est aussi une révolution féministe, non ?
Notre révolution ne connaît aucune frontière.
Durant des milliers d'années, les hommes en guerre sont passés sur le corps des femmes. Et ici, pour la première fois, ils nous craignent.
Pitié, laisse-moi être tué par un homme.
Il n'y a pas d'homme ici.
J'ai décidé de rejoindre mes sœurs d'armes pour venger mon père et sauver mon frère.
Premier film et coup de maître pour Caroline Fourest qui passe derrière la caméra avec un film de genre, un film de guerre maîtrisé et c'est pas facile, surtout pour un premier film. Vous auriez pu réaliser un documentaire mais vous choisissez la fiction et là on reconnaît la militante que vous êtes, c'est-à-dire s'adresser au plus grand nombre. J'ai pu lire que l'élément déclencheur pour ce film, c'est l'attaque contre Charlie Hebdo.
Ça, c'est l'élément déclencheur chez moi. Ouais. Voilà, c'est ce qui déclenche mon état émotionnel et mon besoin d'aller au plus près du front. Parce qu'à un moment donné, quand on se bat dans l'espace démocratique, dans l'espace de paix, avec calme, en essayant de répondre toujours argument après argument face à la mauvaise foi, c'est déjà difficile avant les attentats, c'était déjà difficile, mais après les attentats et quand toutes les alertes qu'on a essayé de lancer n'ont pas empêché que des vies soient prises, ça devient plus dur. Donc j'avais envie de voir ces combattantes, j'avais envie de faire quelque chose pour combattantes et combattants, essayer de faire quelque chose pour les soutenir. Et il y avait déjà de très bons documentaires,
ouais.
Qui en a beaucoup et ils sont très importants. Mais c'est vrai que moi, ça a tellement rencontré des combats qui m'ont animé pendant 20 ans qu'à un moment donné, l'envie de ce récit est venue. Voilà, il est venu, il a débordé, il m'a un peu pris... pris le pouvoir sur moi, puisque ça fait quand même 4 ans que maintenant j'ai arrêté beaucoup, beaucoup de choses pour m'y consacrer entièrement de façon presque obsessionnelle.
Première fois que vous êtes allée sur le terrain, c'était à quel moment ?
J'y suis allée il y a 2 ans et demi, je crois, ouais. Avant la bataille de Mossoul.
Ouais.
Une première fois pour commencer à écrire le scénario. J'ai rencontré plusieurs groupes de combattantes de toutes les tendances, de la guérilla, des Peshmerga, du PAK. Je suis allée dans la montagne de Sinjar, rencontrer notamment des filles du IPG qui étaient très jeunes, qui étaient pleines de force. Il y avait des kurdes et il y avait même une jeune syrienne arabe parmi elles qui s'était engagée depuis 2 ans à leur côté parce que sa famille avait été attaquée par Daesh et ses parents l'avaient poussée à se sauver en s'engageant chez les Kurdes. Et tout ce qu'elle me racontait, en fait, toutes les anecdotes que j'ai pu glaner sur le terrain étaient souvent plus folles que ce que j'avais imaginé pour mon scénario. Parfois même, je rencontrais des personnages qui étaient déjà dans mon scénario. Donc ça, c'était très troublant. Et notamment, par exemple, sur toutes les scènes de bataille, il y en a que Patrice Franceschi m'a raconté. J'ai parlé aussi avec des volontaires qui revenaient de l'engagement, qui m'ont donné d'autres éléments. Mais souvent, j'ai pas pu tout mettre. J'ai dû enlever plein de choses. Personne n'y aurait cru, vraiment.
Personne n'y aurait cru. Juste une question avant de passer la parole à Patrice. Justement, avant sa mort, je sais que Charb, vous avez parlé de s'engager, lui, auprès des combattants kurdes.
Il en parlait beaucoup. Et j'en ai reparlé récemment avec ses parents qui ont vu le film, qui était extrêmement ému. On a beaucoup pleuré, eux et moi, à l'issue de la projection, parce qu'effectivement, il parlait énormément de s'engager. Il voulait y aller. Il disait que les Kurdes se battaient pour nous tous, contre les ténèbres. Et je crois même que ses parents ont dans l'idée que s'il était parti à temps s'engager, il serait peut-être encore parmi nous. Et on en a discuté, je leur ai dit, vous savez, le nombre de volontaires qui sont partis se battre avec les Kurdes et qui ne sont pas revenus. Je ne sais pas si Charb serait revenu, mais je sais que quelque part, le fait de faire ce film en pensant à lui, c'était une façon de se dire qu'il avait un peu pu rejoindre cette brigade.
Patrice Franceschi, donc vous avez collaboré avec Caroline Fouest, vous avez été son consultant militaire.
Il y avait... Très modestement.
Oui, mais il y avait quand même dans la mise en scène des combats, des points particuliers, spécifiques à ce type de bataillon qu'il fallait montrer.
Alors,
justement à Caroline.
En fait, pour avoir depuis 7 ans passé beaucoup de temps avec les bataillons féminins, les tabours féminins, notamment pendant la bataille de Raqqa, pendant quelques mois, ce que je voulais donner à Caroline, c'était plutôt une apparence de réalité dans ce qu'elles étaient. Leur façon de se déplacer, de saluer, de se rassembler, de porter leurs armes, etc., plutôt que les aspects proprement militaires. Elle avait tous les artificiers après qu'il fallait pour faire un film de guerre splendide là-dessus. Mais moi, je m'étais plutôt attaché, je suis resté une semaine au Maroc, à ce que les figurantes et les comédiennes se comportent, bougent dans l'espace surtout, comme des Kurdes, comme des combattants de Kurdes. Voilà, c'était c'est à peu près tout.
J'ai quand même fait relire mes scènes de guerre à Patrice. C'est vrai que j'étais assez fière parce qu'il ne m'a pas repris sur grand-chose. Mais typiquement, il y avait un moment d'une des plus principales batailles du film, qu'on appelle la bataille des pick-up, où des pick-up kurdes affrontent des pick-up de Daesh, et même un camion suicide de Daesh, qu'on appelle Mad Max, hein, même sur le terrain.
J'avais jamais entendu parler de ça.
Et la scène est géniale.
La scène est absolument formidable, en effet.
C'est un peu
en plein désert.
Oui, on a trouvé un endroit qui ressemble assez fortement à quelques zones assez désertiques entre la Syrie et l'Irak, mais surtout ce fameux Mad Max, qui est un véhicule blindé suicide de Daesh, et la copie exacte conforme d'un vrai Mad Max saisi à Daesh, que j'ai photographié et que j'ai pris en photo sur la base des Peshmerga de Black Tiger. D'ailleurs, leur Mad Max est un tout petit peu moins impressionnant que le nôtre, mais enfin, c'est lui l'original. Et tout est comme ça. C'est que tout ce qui est le plus fou dans le film est réellement inspiré de la réalité. Bien sûr que les scènes de combat sont des résumés, mais on n'avait pas de caméra sur ces moments-là. Moi, j'ai suivi beaucoup de combattants sur Instagram. J'ai essayé d'envoyer toutes les vidéos à mon directeur photo en permanence, de l'inonder avec ça. Mais néanmoins, il y a plein de moments qu'on ne peut pas capturer. Parce que quand les gens se battent, ils se battent, ils ne sont pas en train de filmer, ils n'ont vraiment pas le temps. Et il y a un point sur lequel Patrice m'a repris en disant, non là tu fais exploser une voiture avec un Browning, tirer qu'un Browning depuis un pick-up en mouvement, c'est pas génial, c'est pas précis, puis ça ne va jamais suffire à exploser cette voiture.
Donc il va falloir avoir quoi ?
Eh ben, moi j'ai opté pour Snoopy, enfin je l'ai appelé Snoopy, c'est un lance-roquette portatif dont je n'aurais jamais deviné la portée parce qu'il est assez petit. Mais très 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 costaud.
Et
de fait, on a fait une belle
très explosion. Efficace.
André Hébert, ce que vous avez vu justement des combats, est-ce que ça vous a rappelé, vous, les combats que vous avez pu mener?
Non,
parce
ça ne m'a pas...
Je rappelle que vous êtes engagé, vous aussi, auprès des...
Effectivement, oui, j'étais engagé du YPG, notamment pendant la bataille de Raqqa. Les scènes du film m'ont pas rappelé la réalité de cette guerre. Après, c'est une fiction, donc c'est pas forcément problématique, mais si on prend les scènes en elles-mêmes, non, il y a aucun point commun avec la réalité. On voyait généralement très peu l'ennemi nous voyait très peu, le but c'était de rester à couvert au maximum. Il y avait des affrontements parfois à courte distance, mais pas aussi près que dans le film, dans la grande majorité des cas. On se déplaçait pas en groupe au milieu de la rue, ne serait-ce que pour pas être une cible facile et pour pas marcher sur une mine et tout s'y passer en même temps. Donc non, sur l'aspect combat de ce film, j'ai pas reconnu ce que j'ai vécu.
Que vous n'avez pas vu, par contre, le film.
Si, je l'ai vu.
Vous avez vu le film en entier, bon, d'accord, ok.
J'étais à l'avant-première d'ailleurs.
Licence poétique.
Il est évident que quand vous faites un film de guerre, vous êtes obligé de condenser le spectaculaire. Sinon, si on fait vraiment ce qu'ont vécu les volontaires, et j'en ai parlé avec beaucoup de volontaires qui étaient engagés...
Il ne se passe plus rien à l'écran.
Il se passe rien. Mmh. Les 90% de la guerre est passé à attendre. Voilà. Et justement, moi j'étais à 800 mètres des lignes de Daesh, je vois bien qu'on ne voit rien. On ne voit absolument rien, donc on fait effectivement pas un film de guerre grand public avec ça. On a quelques scènes de combat qui sont des métaphores de confrontation. La scène des batailles des pick-up, je l'ai voulu comme un vrai combat de chevalier. Et effectivement, ça, c'est une métaphore du combat symbolique entre les Kurdes et les djihadistes. Les déplacements dans la ville détruite et dans la ville d'embombardement, justement, elles prennent des risques que normalement, on ne doit pas prendre parce que ça crée une scène d'une dramaturgie exprès. Et bien sûr, évidemment, pour faire un film de guerre, on est obligé de condenser et d'aller au-delà et de faire du spectaculaire.
Faire du spectaculaire, oui, le grand public.
Il faut accepter le côté spectacle. La guerre, c'est 95 15% d'attente, de merde et tout ce qu'on veut, et puis 5% peut-être de moments violents. Et même dans des batailles continues comme à Raqqa, il se passe parfois rien pendant toute une journée, et puis d'un seul coup ça se déclenche. Donc c'est un film de fiction, c'est pas un documentaire, voilà, donc il faut accepter cette différence. Et après ce qui est important, c'est que grosso modo, en tout cas dans un film comme celui de Caroline, ce que l'on veut dire des personnages, voilà, et leur histoire. Et là, ça colle à pas mal de réalités. Pendant la bataille de Raqqa, on s'est croisé à un moment donné le jour où Gabar est mort.
Avec André ?
Oui, il ne le sait pas, mais je l'avais vu. C'est normal, il y avait beaucoup de yézidis dans les batailles, dans les tabours féminins, Yapagé et Yapagé, parce qu'elles étaient vraiment venues se battre pour encore leur sœur, leur mère, etc., qui étaient encore prisonnières dans Raqqa, et que ce qu'elles disaient, ce qu'elles pensaient, ce qu'elles vivaient, le jour, la nuit, leurs obsessions, etc., ça, c'était ce qu'on retrouve dans le film des combattantes, notamment yézidis, qui étaient vraiment un cas un peu à part, parce qu'elles avaient vécu. Et voilà, c'est ce qui probablement importe. Pour le reste, bah oui, ça, une heure
mais
et demie.
Mais ceci dit, c'est passionnant. D'abord, réellement, on n'a jamais fait de film de guerre si proche de la fin d'une vraie guerre. Je veux dire, réellement, c'est extrêmement compliqué pour les vrais acteurs de cette histoire. Même, je pense, à accepter. Moi, j'ai fait beaucoup de projections avec des yézidis. Je l'ai montré à Nadia Mourad. Je peux vous dire que j'ai passé les deux heures les plus longues de mon existence.
On rappelle qu'il y a Nadia Mourad,
prix Nobel de la paix yézidi, qui a subi ce que Zahra subit.
Ce que votre héroïne a subi, enlevée par Daesh.
Puissance 1000.
Esclave sexuelle, vendue.
Vendu plusieurs fois, violé plusieurs fois, traité comme du bétail, et j'ai évidemment dû édulcorer, ne serait-ce que pour que mon personnage puisse rebondir et passer du côté de la résistance. Elle ne pouvait pas avoir le trajet exact de Nadia Mourad ou de quelques autres. Par contre, Nadia m'a dit, tout ce que tu racontes au début, dans le village, la déportation, les échanges même entre les villageois et les djihadistes, c'est exactement ce qui s'est dit dans mon village, parce que je me suis inspirée là de vrais échanges et de vrais dialogues rapportés par les survivantes. J'ai rencontré des Kurdes de la diaspora, dont un qui m'a dit « Mais comment tu sais que nos noms de guerre, c'est nous, par exemple, les noms de code pour les bombardements, c'est ça ?» Je lui dis « Bah parce que t'as parlé à ta sœur, que ta sœur me l'a raconté. » et qui, comme Yaël, joué par Esther Garel, s'est engagé en pensant au début juste être infirmier, parce qu'il avait une formation médicale, et puis s'est retrouvé avec un AK-47 entre les mains, et dont c'est devenu le meilleur ami, et qui depuis 3 mois qu'il est démobilisé, et même plus maintenant pour lui, il a comme un bras qui lui manque, parce que c'est quelque chose qui finit par faire partie de vous.
Tigrane Yegavian, vous avez vu le film?
Oui, je l'ai vu,
aussi.
Je trouve que je l'ai visionné hier et j'étais très troublé parce qu'il évoque un imaginaire qui est quand même assez récent pour le petit-fils de rescapé du génocide que je suis, puisque c'est à peu de choses près la répétition du même mode opératoire que de l'extermination des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, mais aussi des Yézidis, car on l'oublie aussi, les Yézidis ont été victimes d'un génocide en 1915, et comme un personnage du film l'évoque, c'est le 70e génocide qui s'entraîne vivre en 2014. Alors oui, le même mode opératoire, parce qu'on sépare les hommes des femmes, on va pas forcément exterminer les femmes tout de suite, parce que c'est des objets sexuels, donc il y a aussi une volonté d'anéantir le corps de la femme, comme si on avait l'intention de castrer cette minorité. Donc il y a aussi une vraie violence sexuelle qui s'exprime de façon très flagrante et qu'on le voit dans ce film aussi, de détruire en fait ce groupe ethnique, linguistique, confessionnel part le ventre des femmes. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, en fait, en tout cas, surtout la scène où elle se venge. Finalement, elle arrive à surmonter sa peur et c'était très frappant. Donc oui, complètement hanté par les images de 1915. À ceci près que les images ont été colorisées. Mais c'est à peu de choses près aussi le même lieu. Hein, parce qu'on est quand même dans l'ère mésopotamienne, c'est un lieu où il y a beaucoup de déportés, il y a aussi des crimes de masse qui sont déroulés dans...
C'est fou ce qui a secoué la Mésopotamie au fil des siècles, et à un moment donné on rappelle dans une scène qui est un peu le discours dogmatique de la chef, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idéologie, c'est la différence aussi entre les combattants de la guérilla et peut-être des soldats professionnels, c'est qu'ils sont animés d'une vraie idéologie, ils ont un vrai idéal, ils croient encore à quelque chose, donc il y a aussi des cours de formation politique, et quand la chef, jouée par Amira Kazar, rappelle que du temps de la Mésopotamie, on avait le culte de la déesse mère et qu'ensuite le monothéisme et puis ensuite la lutte des classes sont venus réellement créer des rapports de force qui n'existaient peut-être pas de cette façon-là auparavant. Ça ne veut pas dire que c'était tendre auparavant du tout, mais comme vous, moi j'ai été frappée par ces processus de déportation, de séparation, parce qu'on a une tendance à voir les djihadistes comme des êtres un peu... brouillon, on a cet imaginaire exotique sur eux qui les rend un peu approximatifs. Alors que dans cette affaire-là, les soldats de l'État islamique ont agi réellement comme tout totalitaire, de façon extrêmement organisée. Par exemple, ils avaient un discours pour les villageois yézidis, pour ne pas avoir à porter les corps, pour les persuader, pour les amener jusqu'au bord de la fosse commune où ils allaient les abattre. Ils leur disaient « mais on va vous transférer, si vous donnez vos bijoux, tout va bien se passer, donc montez dans les bus. »
Ouais.
Puis ils montent dans les bus, ils leur disent « mais on va vous emmener, vous transférer dans un autre village, vous inquiétez pas, descendez du bus, attendez là, et c'est là qu'ils les exécutaient, comme dans la Shoah par balle, et avec la même rationalité pour ne pas avoir à porter les corps et pour s'économiser.
Joséphine et Alexandre de la Baume, une sœur et son frère à l'affiche de Film Noir, c'est le nom de leur groupe. Non, nous, au programme ce soir, c'est Film de guerre dans le NRV.
Rendez-vous.
Volte-face de Donald Trump sur la Syrie.
24 heures après avoir annoncé un retrait des troupes américaines du nord de la Syrie, et devant le tollé provoqué jusque dans son propre camp, Donald Trump parle désormais d'un simple redéploiement de quelques militaires et menace la Turquie de toute action qui dépasserait les bornes.
J'ai dit à la Turquie, si vous faites quoi que ce soit d'inhumain, alors on frappera très durement votre économie.
Laurent Goumard.
La Turquie a déjà mené deux offensives dans le nord de la Syrie en 2016 contre le groupe État islamique et puis l'an dernier contre les forces kurdes.
Sur France Inter.
À l'occasion de la sortie en salle demain du film de Caroline Fourest, Sœurs d'armes, retour sur la situation de ces minorités d'Orient, yézidis et kurdes. Au moment où on vient de l'entendre, la situation kurde est à nouveau dans l'actualité. On en parle avec nos invités ce soir. Caroline Fourest, Patrice Franceschi, André Hébert et Tigrane Yegavian. Tigrane Yegavian, les troupes américaines donc stationnées dans le nord de la Syrie ont commencé à se retirer des abords de la frontière turque, ce qui ouvre la voie à l'offensive des Turcs contre les forces kurdes. La Turquie considère les forces kurdes des unités de protection du peuple comme des terroristes, volte-face dans la nuit des États-Unis, comme on vient de l'entendre. Une réaction à ce...
Connaissant Donald Trump, c'est un petit peu, retenez-moi si je fais un malheur. Enfin, je ne pense pas qu'on peut se fier au sérieux de ce tweet, connaissant son impulsivité. Mais par contre, ce qui est fort, ce qu'on peut envisager éventuellement, c'est la répétition du scénario de la chute d'Ifrin. C'est-à-dire que Ifrin est une enclave qui est située dans l'ouest de la Syrie, une enclave tenue par le PYD, hein, la branche syrienne du PKK kurde, et qui est tombée au bout de plusieurs mois de combat. Il y a fort à parier qu'on assiste à la répétition d'un même scénario. C'est-à-dire qu'on va éliminer, si vous voulez, l'administration autonome kurde afin d'établir une sorte de zone tampon sur lequel l'armée régulière syrienne, les forces de Bachar el-Assad, pourraient reconquérir les terrains perdus par les Kurdes des forces démocratiques kurdes. Et c'est un petit peu le scénario qui est envisagé, en tout cas à Moscou et à Ankara.
Patrick Franceschi,
pas tout à fait d'accord. En fait, Trump nous refait exactement ce qu'il nous a fait en décembre 2018. Il a fait exactement la même chose. L'armée américaine n'a plus rien à faire depuis la fin de la guerre, donc on s'en va. Le même tollé dans son camp, c'est la France qui a beaucoup joué, et le président de la République notamment, qui je rappelle a été le seul chef d'État à recevoir par deux fois une délégation des forces démocratiques syriennes, arabes, kurdes et chrétiens, et il a rétropédalé. Et ça a été la même chose dans la nuit. Entre le tollé général chez lui, entre le Pentagone qui n'est pas d'accord, sur l'impulsion qui n'est pas d'accord, et ce que la France a fait aussi, via notre président, pour lui dire « mais ça va pas », il rétropédale exactement de la même manière, et il menace les Turcs de la même chose, de les ruiner économiquement parlant. Donc, c'est pas le cas d'Afrin, parce qu'Afrin, c'était sous tutelle, je dirais, russe. Là, on est sur la partie est de l'Euphrate, qui est, disons, coalition internationale, notamment américaine, d'abord française et britannique. On a toujours des troupes là-bas, les Américains aussi. Ce qu'ils ont déplacé de la frontière entre, en fait, Sérik Hani et Tel Abyad, c'est une petite partie de leurs soldats qui étaient juste sur la frontière. Et effectivement, ils sont pas beaucoup bougés. Donc, je vous le confirme. Donc, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en réalité, parce qu'il a rétropédalé très vite. C'est vraiment la deuxième fois qu'il nous fait ce coup-là. Ce qui est très gênant, c'est que la crainte, c'est que Erdogan, qui veut vraiment s'emparer de la totalité du nord de la Syrie, de ce qu'on appelle le jeu des NES, Nord et Est de Syrie, attaque à tout instant sur un coup de folie. Il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette. Il n'y a pas grand monde et il peut attaquer dans plusieurs villes ou entre deux villes, s'installer et puis après quoi ? So what ? Je suis l'OTAN, tu ne vas pas me tirer dessus. C'est surtout ça qu'on
fait. Et avec tout ça, Caroline Fourest, déjà en janvier, vous aviez écrit dans Marianne que Donald Trump mettait en péril la reconquête contre Daesh, justement, en agissant de cette manière-là.
Mais le fait de décrédibiliser à ce point la parole de ceux qui sont censés protéger militairement la région et de l'invasion turque, c'est dramatique. Ce président a été élu en disant faire de l'Amérique plus grande, plus forte que jamais. Il l'a mis par terre. Il a sali son uniforme de gendarme du monde. Il l'a vidé de son sens. Les alliés ne peuvent plus avoir la moindre confiance dans la parole américaine. C'est juste dramatique. Et néanmoins, si Erdogan est allé si loin déjà à Afrin, c'est parce qu'il sent qu'il y a cette faiblesse. Aujourd'hui, dans cette région, il y a non seulement les soldats turcs qui sont prêts à rentrer, mais il y a plein de milices sous des uniformes qu'on sait être armés par la Turquie qui n'attendent qu'une faiblesse pour sortir des casernes, pour commettre un bain de sang, pour faire du nettoyage ethnique. Et ça, on le voit venir depuis très longtemps. Le scénario du film, je l'ai écrit il y a plus de 3 ans, et je ne veux pas spoiler ni la fin ni rien, mais il y a un dialogue qui parle de l'abandon des Kurdes et de l'abandon de la coalition.
C'est d'ailleurs le dernier mot C'est le dernier
c'est
mot.
C'est un des derniers mots.
Un des derniers mots, en effet, oui, c'est un des derniers mots de du scénario. Ouais.
Il y a des choses plus romantiques et plus personnelles ensuite.
Ensuite,
mais au milieu, du, au milieu d'une scène romantique,
sur la situation géopolitique, voilà, c'est à ce moment-là.
Au milieu d'une scène romantique, ouais, il y a quand même cette alerte qui était malheureusement prévisible. Après, il y a quelque
sur
chose
l'abandon, ouais,
quand même qu'il faut le dire. Contrairement à toutes les fois où les Kurdes ont été abandonnés dans l'histoire, c'est aussi pour ça qu'on fait des films de cinéma. C'est aussi pour ça qu'il faut écrire des chansons, qu'il faut faire absolument tout ce qu'on peut artistiquement. J'ai l'impression que il y a une partie du monde, une partie des peuples qui n'ont pas envie de les abandonner, qui n'ont pas envie de les oublier. Cette reconnaissance morale, elle perdure au-delà de l'oubli et du cynisme des gouvernants. Et ça, c'est la partie belle de l'humanité. Et il faut qu'on continue à se battre pour que ça dure.
Et pour les soldats français qui combattent là-bas depuis...
Oui, c'est ça. Quelle est leur position?
Depuis 5 ans, depuis 2014, je peux vous assurer que de notre côté, on considère les Kurdes comme nos frères d'armes et qu'on ne veut pas les abandonner. Et que ça a beaucoup pesé dans les décisions. Donc, pour notre armée, la fierté, ça a été vraiment de se dire, on n'abandonne pas de tels alliés qui ont consenti quand même 36 000 tués et blessés pendant toute cette campagne militaire qui est allée au-delà de nos espérances pour liquider Daesh. Bon. Le problème, c'est que, par exemple, en ce moment même, l'état-major kurde, FDS, disons, la solidité mentale et morale, elle est toujours là. Mais il y a un désarroi considérable dans la population, parce que finalement, c'est plus sur quel pied danser pour eux. Est-ce qu'ils aimeraient partir, ils partent pas, ils repartent. Bref, quand il faut du temps long pour stabiliser, et Dieu sait si des efforts sont faits constamment pour ça, on l'a pas. Et Trump, et ben finalement, c'est foucade, complètement sotte, qui montre qu'il a aucune politique, font que sans arrêt, la confiance se perd. Et ça, c'est très grave, sur le temps long.
André Hébert, vous qui avez été sur le terrain jusqu'à
oui,
Raqqa.
Ouais. Et j'ai toujours des remontées de mes camarades qui sont encore sur place aujourd'hui et qui m'expliquent effectivement que l'heure est extrêmement grave, qu'il y a un certain nombre de localités qui ont été évacuées déjà en prévision d'une attaque, que toutes les forces militaires sont en ordre de bataille. Maintenant, il y a deux choses sur lesquelles il faut insister. D'un point de vue de français, il est extrêmement important qu'on continue à soutenir les Kurdes pour éviter la résurgence des mouvements islamistes qui ont fait tant de morts en France. Donc c'est pas simplement, il en va pas simplement de notre honneur, il en va aussi de notre sécurité nationale de continuer à les soutenir, parce que sinon Erdogan va installer dans cette zone, ce qu'il a fait aussi à Afrin, un califat bis, cette fois-ci sous protection de l'OTAN, et les mercenaires d'Erdogan sont des anciens du Front al-Nusra et des anciens de Daesh. Donc ça représente, c'est une bombe à retardement, le projet d'Erdogan, c'est une bombe à retardement qui risque de nous exploser à la figure. Et deuxième point, en tant que militant communiste, pour moi, ce qui se passe aussi dans ce territoire, au Rojava, c'est un modèle basé sur des communes, des coopératives, un modèle révolutionnaire qui fonctionne et qui a un espoir pour tous ceux qui, dans le monde, veulent une alternative au capitalisme. Et c'est pour ça qu'il est aussi important pour nous de préserver à tout prix le Rojava.
Tigrane Yegavian, dans un communiqué, la Maison-Blanche a évoqué la possibilité de confier à la Turquie la responsabilité des combattants européens de l'État islamique actuellement qui sont détenus par la coalition arabo-kurde. C'est une erreur, d'après vous ?
C'est irresponsable, hein, quand on voit comment ils appliquent leur politique de chantage déjà vis-à-vis des migrants. C'est le problème de la Turquie, c'est que c'est un peu une patate chaude que les Américains et les Français n'arrivent pas à s'en débarrasser, étant donné que c'est la deuxième force de l'OTAN. On l'a bien vu pour l'affaire l'achat des missiles, des systèmes de missiles russes. Les mesures de coercition de la part des États-Unis étaient très faibles. Je veux dire, la réaction américaine était très molle vis-à-vis de cette acquisition, en fait, d'un système de défense donc qui menace carrément le dispositif de l'OTAN. Donc, on est vraiment dans une situation très très ambiguë, où, encore une fois, je trouve que les Américains et les Français quand même n'ont pas les moyens de leur ambition sur le terrain et que ça reste encore les Turcs qui arrivent avec leur diplomatie, leur savoir-faire, à retourner les choses. Mais aussi, par rapport au terrain, vous disiez, M. Franceschi, que donc, les FDS campent ont un moral aguerri, mais le problème, c'est qu'ils occupent des territoires où ils ne sont pas majoritaires. Les Kurdes ne sont plus majoritaires, en l'occurrence, toute la région du Jéziré. Et ces populations arabes sunnites, les chamars, notamment de Hassagay, de Derzah, etc., sont gagnés par l'idéologie djihadiste, qui est un vrai cancer, et les cellules dormantes.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Non, mais faut pas.
Tout simplement parce que, par exemple, si on regarde dans les unités féminines combattantes, les Abadjahs d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'Arabes. Tu sais, je passe l'essentiel de mon temps depuis 7 ans là-bas. Bon. Et je le vois au fur et à mesure. Et le travail qu'on a fait à des résorts jusqu'en bas, pour que justement les tribus qui sont sunnites, donc ne retournent pas chez les chiites, heureusement. Les alaouites de Damas, ça marche plutôt pas mal. Bien entendu que l'autre côté, il y a tout un travail, donc c'est déséquilibré. Maintenant, sur la zone FDS, il y a plus d'Arabes que de Kurdes dans l'ensemble, bien sûr, mais c'est les Arabes plutôt au sud, les Kurdes plutôt au nord, il y a tous les chrétiens de la zone de Derik et tout ça. C'est pas gagné, c'est très difficile, et ce qu'il y a de plus amusant, au mauvais sens du terme, dans la proposition pour revenir à ça des Américains et les Kurdes, depuis la première bataille importante qui était à Sirikani en 2013, Kobané 2014, puis à Manbij, etc., moi, tout ce que j'ai vu, là, tout le temps, ça a été l'aide des Turcs à Daesh, ou Al-Nosra avant. Mais j'en suis témoin permanent. Vous preniez, par exemple, sur les cadavres, tous les passeports, etc., tous Turcs, etc. Bon. Donc on sait très bien qu'ils ont complètement aidé Daesh pendant toute cette période-là pour liquider les Kurdes, et maintenant on voudrait que les prisonniers, les Kurdes, et je peux vous dire que c'est pas des rigolos, on les confie aux Turcs, ils vont les faire partir immédiatement, les reprendre c'est sous
sûr.
Leur coupe.
C'est
un truc, c'est hallucinant de penser cela.
Le double jeu turc pendant cette guerre a été fou quand même.
C'est-à-dire,
d'un côté, ils avaient une base aux côtés de la coalition, d'un côté, ils sont dans l'OTAN, et ça va finir par se poser comme question. Qu'est-ce que la Turquie fait encore dans l'OTAN? On en a malheureusement apparemment besoin,
très
mais sincèrement, c'est inouï, ça n'a plus aucun sens. Et ils ont en permanence soigné les blessés Daesh. On savait très bien qu'ils allaient se soigner en Turquie. Ils repassaient la frontière dans l'autre sens avec des passeports turcs, et évidemment que demain, s'ils mettent la main sur les prisonniers de Daesh, ils les libéreront, ils les laisseront partir avec un grand bonheur dans la nature. D'abord, Erdogan, c'est le nouveau calife. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé, même symboliquement, dans le passage de témoin entre al-Baghdadi et lui. Quelque part, bien sûr que Erdogan donne le sentiment d'être du côté de la victoire militaire sur Daesh. En réalité, il y a une partie des djihadistes qui ont juste changé de drapeau islamiste et qui sont passés du côté des Turcs et qui vont, par exemple, s'en prendre aux yézidis de la même manière si demain on les laisse avancer. Il y a des vidéos qui montrent des Turcs chanter des chants nostalgiques de la grande colonisation ottomane et d'autres lancer des slogans contre les yézidis, adorateurs du diable et qu'ils veulent exterminer, exactement comme les gens de Daesh.
Si l'on reprend tout ce qui se passe à Afrin,
Patrice Fonsechki,
2018, janvier, l'attaque d'Afrin qui va tomber en avril, mars. Depuis cette époque-là, le nettoyage ethnique qui est effectué, les remplacements et déplacements de population, c'est quelque chose d'inimaginable, et qui se fait dans l'indifférence totale de la communauté internationale. On a bien documenté tout cela, entre les tortures, les exécutions sommaires, les massacres.
Les disparus, les checkpoints où les Kurdes disparaissent. Voilà,
On a tout ça, tout le monde le sait, c'est bien documenté, nos politiques le savent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on préfère se taire par rapport à Erdogan, ce qui ne fait que, évidemment, le renforcer dans sa pensée, bien sa sûr. Position, que nous sommes très faibles. Et là, je vous rejoins, effectivement, nous n'avons pas la même détermination, mais que voulez-vous, on n'a pas les 800 km de frontière, eux, ils seront là pendant 1000 ans. Donc, ce sont un choc de volonté, et là où André Hébert a tout à fait raison, faute morale si on les abandonne, faute politique si on les abandonne, tout simplement parce qu'on peut être certain qu'Erdogan ramènera les djihadistes sous une forme ou une autre, sous une appellation ou une autre. On les connaît très bien, les chefs djihadistes, et que nous aurons à nouveau des attentats en France.
Voilà. Mais là, on parle d'une politique d'ingénierie démographique qui a eu lieu dans le Nord. N'oubliez pas les Ouïghours aussi, qui sont venus installer les Ouïghours, qui peuplent toute la région frontalière. Cette politique d'ingénierie démographique se fait dans tous les sens, du côté du régime de Damas, du côté turc.
Il y a quand même un quand on parlait de la source de l'espoir que représente le Rojava, et tout le monde a conscience que c'est une utopie fragile, mais ça fait du bien des fois de croire à des utopies, et notamment dans cette région du monde qui est extrêmement tribalisée, où le poids des identités ethniques et des minorités religieuses créer la guerre depuis tellement d'années, il y a un projet politique qui essaie de surpasser ça, de transcender les identités. Et il y a effectivement des régions où il y a aussi aujourd'hui des Arabes qui préfèrent vivre sous la domination politique d'un projet comme le Rojava plutôt que sous un tyran comme Bachar el-Assad. Ça ne veut pas dire que ça va réussir, parce qu'ils sont minoritaires, ils sont cernés par des puissances qui ont tout pour les écraser. Vladimir Poutine se frotte les mains en ce moment à l'idée des toupies que fait Donald Trump, parce qu'au fond, c'est lui qui va être le maître du jeu avec Bachar el-Assad à la fin de la fin. Si le sang commence à couler, vers qui on va se tourner si les Américains sont partis? Donc c'est aussi ce que la Russie espère. Mais néanmoins, tant qu'on peut, je pense que c'est l'honneur de tous ceux qui croient qu'on peut encore faire un projet laïque, féministe, écologiste, comme c'est le cas du Rojava, de soutenir cette utopie, parce qu'elle existe dans une région du monde où rien de plus beau n'a été imaginé depuis des décennies.
C'est aussi un modèle socialiste qui est important, il est important de le rappeler, et ces Kurdes sont pas une entité unique, c'est des organisations bien précises et qui sont des révolutionnaires socialistes, qui malheureusement est quelque chose qui est souvent passé sous silence quand on parle des Kurdes. Notamment, pour revenir à votre film, c'est vrai que un des aspects qui m'a gêné, c'est ces Kurdes qui sont présentés comme une entité unique, à l'identité politique mal définie. Et vous présentez, par exemple, un bloc qui serait composé d'un côté du YPG-PKK et qui serait aussi uni avec les Peshmerga. Mmh, or, ce qui s'est passé au Sinjar, c'était absolument pas ça. C'est le PKK et l'YPG qui a ouvert un corridor humanitaire pour sauver les civils et les Peshmerga qui se sont enfuis.
Ça se voit dans le film aussi.
Dans mon parcours, j'étais au Sinjar fin 2015 quand il s'agissait de nettoyer ces régions des derniers ennemis, des derniers combattants de Daesh qui s'y trouvaient. Et on a failli se retrouver à combattre ces Peshmerga qui voulaient revenir au dernier moment pour occuper des territoires qui n'avaient pas contribué à libérer. Et la différence entre les deux, c'est que d'un côté, il y a des révolutionnaires qui, eux, ont combattu jusqu'au bout pour les civils yézidis. Et de l'autre, il y a des Peshmerga qui, eux, n'ont pas d'idéologie, à part le capitalisme, et qui sont partis en courant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas montré dans votre film,
non,
mais qui
est
vraiment extrêmement important.
Mais ce n'est pas un film politique.
On y reviendra dans quelques instants.
Non, juste une question pour laquelle...
Non,
les Yapagais sont un peu souvent gênés de mettre trop en avant le côté militant, parce qu'ils sont alliés aux grands capitalistes américains. Ouais. Et cette problématique, bon, on préfère pas trop en parler. Voilà
c'est
la
pas,
réalité.
C'est pas un documentaire sur les groupuscules politiques. Sinon, pour le coup, je pense que je raterais ma mission de cinéaste. Je l'ai volontairement, et je l'ai expliqué d'ailleurs, et à des représentants du YPG, du garçon et fille, comme à des représentants des Peshmerga, parce que les deux côtés, évidemment, il fallait leur expliquer que c'était une volonté absolue de faire une métaphore de ce conflit, de réunir les Kurdes sous un même drapeau pour ne pas perdre les gens avec les sigles, les groupuscules, les chapelles, les révolutionnaires anticapitalistes.
Il y a juste une phrase d'ailleurs au détour d'un dialogue qui montre bien que la situation n'est pas aussi unique.
Et c'est ce qui plaît aux yézidis. D'une part, on voit une scène où les Peshmerga s'en vont, ça n'est absolument pas nié, et je l'ai expliqué aux Peshmerga, j'ai essayé de leur faire comprendre pourquoi c'était nécessaire de respecter cette histoire. La chef kurde qu'incarne Amira Kazar incarne clairement quelqu'un qui est de l'idéologie révolutionnaire, socialiste, écologiste et féministe, et ça se voit très clairement dans le film. Et le colonel, lui, qui fait la liaison avec la coalition, incarne évidemment plutôt la tendance Peshmerga. Et je pense qu'il y a plusieurs lectures dans le film que les spécialistes des spécialistes, et surtout ceux qui sont engagés dans des groupes révolutionnaires, marxistes, évidemment préféreront toujours un documentaire qu'ils tourneront eux-mêmes. Je le comprends, je le respecte et je leur souhaite d'en faire 100 000, on en a besoin. Mais quand on veut faire un film grand public et ne pas perdre les gens sur les divisions entre les Kurdes et faire en sorte qu'ils les soutiennent, on doit mettre en avant ce qui unit. C'est aussi ça le cinéma, c'est une utopie et je la revendique.
On va repartir au combat dans quelques instants avec un gros plan justement sur votre parcours, André Hébert. Tout de suite, Brittany Howard pour une autobiographie musicale et soul. We'll be right back. Stay High avec Brittany Howard sur France Inter. La programmation prend de la hauteur avec Jean-Baptiste Olibert.
De la rage et une envie de faire bouger les choses.
Il y a beaucoup d'Européens occidentaux qui ont été concernés par le fléau de Daesh.
France Inter.
Moi, je suis catholique. Ça aussi, pour moi, c'était important d'intervenir au Kurdistan.
Moi, je le savais qu'il fallait que j'y aille.
Pour protéger les chrétiens, les musulmans, les yézidis.
Le nouveau rendez-vous.
On a un projet ouvertement progressiste qui met au centre de sa politique l'émancipation des femmes, la démocratie directe.
Ici, ça me parle, quoi.
J'avais envie de venir sur place, de faire l'expérience d'une révolution.
Si moi, je fais mon sac pour partir là-bas, c'est parce que sur place, il y a aussi des enfants qui sont maltraités par la guerre.
C'était pas pour voir, non. Il fallait s'engager pour la cause de la liberté dans le monde, oui.
Laurent Goumard.
Dans le film « Sœurs d'armes » qui sort demain, deux Françaises partent combattre au Kurdistan au sein d'une brigade internationale aux côtés de combattantes kurdes contre Daesh. Et bien ce soir, on revient aussi sur l'histoire de ces combattants avec nos invités Caroline Fourest, Patrice Franceschi, Tigrane Yegavian et vous, André Hébert. Vous êtes partis combattre l'État islamique pendant 15 mois aux côtés des Kurdes en Syrie. Vous avez raconté cet engagement dans le livre hein, « Jusqu'à Raqqa avec les Kurdes contre Daesh ». On entendait plusieurs témoignages en ouverture de cette troisième partie. Quel a été pour vous l'élément qui a permis ce départ?
L'élément déclencheur, c'est la bataille de Kobané. Quand j'ai vu le courage des défenseurs de Kobané, ça m'a poussé à me renseigner davantage sur qui étaient ces Kurdes. Et j'ai découvert derrière un projet politique qui correspondait en grande partie à la façon dont je voulais voir la société changer. Moi, j'étais déjà militant communiste de longue date à ce moment-là. Et j'ai compris que ça correspondait pas à 100% à mes idées, mais que Ça correspondait dans les grandes lignes et que c'était l'opportunité pour moi de participer à une révolution et de contribuer à construire un modèle qui resterait dans l'histoire.
Comment la France perçoit-elle l'engagement de ces Français aux côtés des forces kurdes? Est-ce qu'elle freine? Est-ce qu'elle autorise? Est-ce qu'elle laisse faire?
Elle a commencé par laisser faire, ensuite par essayer de freiner, à exercer des pressions, notamment sur le YPG pendant des années pour qu'ils arrêtent d'accepter des volontaires. J'ai eu un certain nombre de problèmes aussi avec la DGSI qui m'a accusé d'avoir des liens avec l'émanation d'un groupe terroriste, enfin de tout un tas d'accusations sans preuve qui évidemment ont été complètement balayées d'un revers de main par le tribunal administratif de Paris. Donc j'ai fini par récupérer le passeport et la carte d'identité qui m'avait pris, à retourner là-bas et récemment l'État a été condamné à me verser des indemnités au titre préjudice moral. Donc il y a une partie, oui, de l'appareil policier qui essaye de freiner. Et aujourd'hui encore, mes camarades sur le terrain me disent que la France exerce des pressions sur les Kurdes pour qu'ils arrêtent de recruter des volontaires.
Caroline Forest, vous
confirmez ? Non, c'est particulièrement... c'est pas évident du tout pour les volontaires qui reviennent. Il y a aussi il y a les volontaires qui ont la seule nationalité française. Il y a des volontaires qui ont une double nationalité. Je pense à Ebru Firat, par exemple, qui est donc d'origine kurde. Une Toulousaine qui est partie s'engager avec les YPG, qui, quand elle est revenue, a voulu reprendre ses études, reprendre sa vie. Et elle est allée visiter, à un moment donné, une partie de sa famille en Turquie. Elle a été arrêtée, jetée en prison. Ça fait des mois que la diplomatie a essayé de l'en sortir. Elle est sous liberté conditionnelle. Elle peut toujours pas revenir en France. Et ça fait quand même des mois et des mois que ça dure. Et puis même, il y a une confusion dans le débat intellectuel qui m'inquiète autant que ces mesures de rétorsion. C'est que il y a un certain nombre de médias, j'ai pas envie de les nommer parce que je suis fatiguée des polémiques avec eux, mais il y a des médias qui aujourd'hui parlent de revenants à propos des volontaires qui se sont engagés aux côtés des Kurdes. C'est-à-dire qu'ils essaient d'induire une confusion sémantique, comme s'il y avait quoi que ce soit de similaire entre ceux qui se sont engagés aux côtés de
Daesh, bien
et
sûr.
Qu'on appelle
c'est
les revenants,
la même terminologie, ouais.
Parce qu'ils reviennent et présentent un risque de sécurité, et des volontaires qui se sont engagés aux côtés des Kurdes et qui reviennent chez eux.
André Hébert, dans le film de Caroline Fourest, on entend ces combattantes qui chantent le chant du partisan, qui chantent Bella Ciao. Est-ce que vous, dans votre démarche, y avez retrouvé quelque chose de ces combattants comme on a pu les voir en 1936 pendant la guerre d'Espagne? Est-ce que c'était dans le même mouvement?
Oui, évidemment. L'idée était extrêmement présente. Il y a un bataillon qui s'appelait le Bataillon International de Libération auquel j'ai appartenu, qui était organisé au sein du YPG par un certain nombre de partis révolutionnaires turcs, cette fois-ci qui étaient présents, qui combattaient pour la révolution du Rojava. Et oui, on avait effectivement pour beaucoup cette idée en tête, la guerre civile espagnole. Ensuite, l'histoire se répète, ça ne se répète pas, elle se répète jamais à l'identique. Mais c'était évidemment pour nous un modèle et on souhaitait s'inscrire dans les pas de ces illustres ancêtres, c'est certain.
Patrice Franceschi, en fait, même idéologie pour vous, souterraine?
Moi, je suis un militant pro-kurde. Hein? Pas politique au sens d'André Hébert. Mais je respecte ces engagements-là, j'en ai connu plein. Moi, j'étais avec les Kurdes de Talabani, avec la première guerre du Golfe.
Oui, en Irak et en Syrie. Ouais.
Ensuite, j'étais avec Abdullah Öcalan, au PKK en Turquie, directement. C'était un personnage, croyez-moi, très politique à l'époque. Et ça, son évolution politique sur le changement du communisme à l'État a été extrêmement intéressante pendant des années. Et puis en 2012, avec Léa Paguet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté de ces gens-là, c'est le projet politique qu'ils portent. Je le partage. Il est extraordinaire, il est incroyable, et il est féministe, et il est écologique. Bon, les militants français qui sont allés là-bas, il y a deux types, en gros. Il y a des gens très politisés, et eux, ils sont très surveillés par la DGSI et tout, parce qu'ils craignent qu'ils fassent quelque chose en France. Et puis, il y a les anciens militaires, les aventuriers, tout ça, qui, eux, ils passent sous les radars, personne ne s'en occupe, ils rentrent. Donc, la vraie extension très désagréable, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme dit Caroline Forest, il y a des médias qui ont tendance à mélanger un petit peu tout ça et à dire finalement les gens qui étaient avec Daesh ou les autres, ceux qui vont combattre d'une manière ou d'une autre en Syrie, c'est tous les mêmes, ce qui est évidemment totalement faux.
Le mot de la fin, Caroline Forest.
Il y a toujours plusieurs motivations pour rejoindre un conflit. Moi, ce que j'ai eu envie de montrer dans Sœurs d'armes, pour une fois, parce que finalement, les motivations très idéologiques, très politiques, qu'elles soient nationalistes ou internationalistes, on les connaît, ça fait plusieurs guerres qu'on les voit à l'œuvre et on connaît ce qui motive les garçons pour rejoindre les conflits. Et parfois c'est très noble et parfois ça l'est un peu moins. Moi j'ai eu envie d'insister sur ces volontaires femmes parce que je trouve que ça c'est quand même un peu plus nouveau de voir des gens qui s'engagent dans un conflit, y compris ils sont prêts à prendre les armes pour des motivations purement féministes parce qu'elles sont révoltées par ce que font les totalitaires aux femmes. Ma conviction à moi, c'est ma conviction profonde. Pardon, je finis ma phrase. Ma conviction profonde. Je parle là des femmes en général et j'ai ce droit-là. Je pense que le féminisme est un filtre magnifique qui permet justement aux plus belles idéologies de ne jamais tomber dans le sectarisme totalitaire. Et c'est aussi cette prévention-là, c'est aussi cette sécurité-là qui me plaît dans un film de guerre féministe.
On va partir tout de suite en live avec Marion Guilbeault.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion.
Notre live du jour, c'est celui de Botibol, alias Vincent Bestaven. C'est un musicien qu'on avait déjà repéré aux côtés de Petit Fantôme. C'est un musicien qui cultive son propre jardin à lui, avec déjà deux albums à son actif, tous empreints d'une musique boisée, vibrante. Alors depuis ses débuts en 2011, Botibol est devenu une figure du rock indépendant en France. Faut savoir que c'est un milieu musical un peu fermé, qui ça peut être un peu sectaire, très à cheval sur les références, les étiquettes. Mais toutes ces injonctions n'ont aucun effet sur lui. Ce bar de Bordelais a décidé de ne rien s'interdire. Son nouvel album, le magnifique et énigmatique La Fièvre Golby, est une des très très belles surprises de la rentrée. On sent qu'il a respiré le folk d'Eliott Smith, le psychédélisme paisible de François de Roubaix et les guitares gothiques de Timber Timbre. Et ce qui est remarquable chez lui, dans son univers, c'est que toutes ces influences font bien mieux que cohabiter. Elles sont comme les arbres d'une forêt, elles collaborent entre elles pour créer une mélodie qui vont nous réchauffer tout l'automne. Alors, juste avant qu'il joue, moi j'avais une question à lui poser. Sur ce nouvel album, il chante en anglais, en espagnol, aucune chanson en français. Et pourtant, vous avez intitulé ce disque, moi j'adore la pochette, elle est magnifique. La fièvre Golby, elle vient d'où cette fièvre, Vincent ?
C'est une fièvre... Déjà, bonsoir et merci beaucoup.
Bonsoir.
C'est une fièvre créatrice, on va dire.
Ouais.
Cet album a été écrit en grande partie à l'époque où je tournais, j'étais en studio avec Petit Fantôme. Et c'était des phases d'intense retour aux sources de 2-3 jours. Je me retrouvais à la montagne, à la forêt, à la mer.
Et c'est qui Golby ?
Pour enregistrer, maqueter. Et c'était comme des épisodes fiévreux, en fait. Voilà.
Et Golby ?
Et Golby, c'est un pays imaginaire, en fait, qui m'a servi de vecteur pour raconter toutes ces histoires. Entre quelque chose des histoires très personnelles et des questionnements d'ordre plus général.
Eh bien, on vous écoute tout de suite maintenant dans le NRV Botibol. Fire, they light the massive cup. I think that shampoo.
these fools. Levitation. Levitation. Yellow arms stand around the fire. They light the massive cup. I think that chin grow old.
Extrait de son nouvel album La Fièvre Golbi qui sort vendredi. Il sera en concert à Saint-Auban le 4 novembre, à Biarritz, à Cholet, Tourcoing, à la Maroquinerie à Paris. Ce sera le 6 février 2020. Il était accompagné par Félix à la batterie, Antoine à la basse, Théa au piano. Et la prise de son ce soir, c'était Charles Pellabon et Guillaume Roux. Merci beaucoup d'être passé par le Nouveau Rendez-vous.
Et merci à tous nos invités. Merci Caroline Fourest. Ça va bien se passer demain pour Sœurs d'Armes. Ça sort demain en salle et on vous dit merde. Tigrane Nigavian, Minorité d'Orient, Les Oubliés de l'Histoire paraîtra aux éditions du Rocher le 23 octobre prochain. Une très jolie date. André Hébert jusqu'à Raqqa avec les Kurdes contre Daesh. Ça, c'est déjà aux belles lettres. Et enfin, Patrice Franceschi, La vie que j'ai voulu. Son autobiographie est parue au Seuil. Ça, c'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite, pour plus de France Inter, mais demain au programme du NRV.
Vous n'avez aucune raison de manger de la viande, parce que vous n'avez pas la dentition d'un omnivore. Vous avez la dentition d'un frugivore.
Je ne la savais pas scientifique, Jeanne Masse. Demain, véganisme. Ce serait un nouvel intégrisme. En live, Marion ?
Vincent Delerme.
Ah mais oui, c'est vrai. Parfait. Le NRV, c'est Marion Lelay. Je la vois derrière, à la vitre, à la réalisation. Programmation, préparation, Virginie Rouzic, Clémence Diligent et vous, Benoît Lagan.
Oui.
On se retrouvera. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal pour le deuxième épisode de notre collection Léonard de Vinci. Gros plan ce soir sur la Joconde. C'est au programme du NRV, la suite France Inter+. Allez, oui. À tout de suite.
Rendez-vous.